Alors, je pense que cette énigme d'une troisième personne dans la première personne a joué un grand rôle dans la philosophie française du XXe siècle, et cela dans les écoles les plus opposées. Et je mentionnerai trois cas exemplaires, n'est-ce pas, la notion de mauvaise foi chez Sartre, la notion d'une ambiguïté de la conscience selon Merleau-Ponty, donc deux exemples côté phénoménologie, et par ailleurs, dans des doctrines structurales, l'idée d'une division inévitable du sujet en un sujet qui parle, le sujet d'énonciation, et le sujet dont on parle, le sujet de l'énoncé. Je reviendrai dans un instant sur la division du sujet en un sujet d'énonciation et le sujet d'énoncé, et j'illustrerai seulement version phénoménologique de cette idée d'une troisième personne dans la première personne en citant Sartre. Dans L'être et néant, vous trouvez un brillant développement sur la possibilité même pour moi de me faire des reproches à moi-même, de m'accuser ou de me déclarer coupable. L'idée étant que si je me déclare coupable, par là même, je deviens innocent. S'accuser, c'est s'innocenter. Et pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que je m'accuse en disant, pour prendre l'exemple de Sartre, je suis méchant, donc je dis de quelqu'un qui est méchant, et ce quelqu'un qui est méchant, c'est l'objet dont je parle. Mais moi qui le dis, par le simple fait de le dire, du même coup, j'apparais comme, non pas méchant, mais comme au contraire, parfaitement honorable, puisque je reconnais la méchanceté de l'objet. Et voilà une citation de Sartre qui résume ce paradoxe, n'est-ce pas, du fait de s'accuser, c'est s'innocenter, dire du mal de soi, c'est dire du bien de soi, finalement. Il écrit dans L'être et néant, page 105, la sincérité totale et constante, comme effort constant pour adhérer à soi, est par nature un effort constant pour se désolidariser de soi. On se libère de soi par l'acte même par lequel on se fait objet pour soi. Donc l'acte par lequel on se fait objet pour soi, c'est exactement ce que nous trouvions dans l'Itré. L'objet dont on parle est à la troisième personne. Et donc, d'une certaine façon, ce que dit Sartre, c'est que je dépose dans cet objet à la troisième personne toute la méchanceté, ce qui fait que le sujet en première personne, lui, peut se dissocier de l'attribut qu'il a collé sur l'objet. Alors, cette analyse des phénoménologues repose sur un présupposé qui est que la structure de la conscience de soi est une structure de sujet à objet, et c'est une structure réflexive. C'est justement parce que c'est une structure réflexive qu'elle peut comporter les deux moments de la position d'un objet et de la reconnaissance dans cet objet de ma propre personne, qui sont les moments donc de position d'une troisième personne et ensuite réappropriation de la troisième personne en une première personne. Si vous considérez un verbe réfléchi qui n'aurait pas un contenu psychologique, les deux moments sont parfaitement aisés à distinguer. Soit l'exemple du barbier qui se rase lui-même. Je m'approche là des paradoxes dont je vais parler maintenant. Donc, le barbier qui se rase lui-même fait une opération qui est réfléchie, puisque on peut l'analyser en deux moments, n'est-ce pas? Pour que le barbier du village se rase lui-même, il faut qu'il rase quelqu'un, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit rasé par lui, il faut que ce quelqu'un ce soit lui. Donc nous avons les deux moments. Position d'un objet, c'est-à-dire transitivité du verbe raser, et puis identification de l'individu qui est dans les deux positions de barbier et de client du barbier, c'est-à-dire réflexion de l'acte de se raser sur soi-même. Alors, peut-on imaginer un barbier qui serait aliéné? Que serait le barbier aliéné? peut-être peut-on imaginer un barbier qui raserait quelqu'un sans savoir que c'est lui et qui donc serait étranger à lui-même dans l'acte de se raser. Peut-être sous la. Il aurait pris des stupéfiants, peut-être dans un état bizarre. Un peu comme l'arroseur arrosé des frères Lumière qui sait que d'une part il arrose les fleurs et d'autre part il est arrosé et qui se demande mais qui m'arrose ? Donc il y a un moment d'aliénation de l'arroseur arrosé. Mais l'inconvénient donc, de l'analyse phénoménologique en termes de sujet et d'objet, c'est que cette aliénation j'essaie d'imaginer par des scénarios improbables dans le cas du barbier qui ne sait pas que c'est lui-même qui le rase ou de l'arroseur qui ne sait pas que c'est lui-même qui l'arrose, ce sont quand même des cas extraordinaires. Alors, les phénoménologues nous demandent de trouver cette relation d'aliénation, d'étrangeté à soi, dans tout acte de conscience de soi, dans toute expression de soi à la première personne, puisqu'il faudrait que la première personne soit toujours position d'un objet et réappropriation de cet objet. Et donc, il y a là une trivialisation de l'aliénation qui est un inconvénient de l'analyse.